Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette étude de cas RH et RSE où on va parler engagement sociétal, engagement des collaborateurs et notamment au travers des associations. Est-ce que tout le monde déjà m'entend bien? Oui, super. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, vous n'êtes pas trop fatigué. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est un petit rappel sur le cadre dans lequel on va intervenir et après vous aurez une étude de cas directement d'entreprises qui agissent au quotidien et qui mettent en place des actions. Si vous avez des questions, peut-être n'hésitez pas à lever la main au fur et à mesure, même si on fera une session de questions-réponses à la fin. Comme ça, on est sûr que si jamais voilà, le temps est un peu court à la fin, votre question n'est pas passée à côté et ça permettra aux intervenants d'interagir directement avec vous et de ne pas attendre la fin. Donc, vous avez devant vous peut-être je vais laisser Céline commencer et Lida, et je reprendrai la main juste après.
Bonjour, Céline Darmon, donc je suis directrice RH France de Malte. Donc, c'est une communauté de freelance qui collabore avec des entreprises via une marketplace.
Lida Meunier, je suis responsable communication et mécénat d'une société qui s'appelle Partner, qui est spécialisée en ingénierie des ressources humaines, et plus particulièrement notre cœur de métier, c'est l'intérim et le recrutement.
Donc par hasard, vous avez en plus des professionnels du monde des RH, c'était pas du tout fait exprès, mais si vous avez d'autres questions, vous pourrez leur poser. Et donc Élise Thibault-Gondré, je suis cofondatrice de l'entreprise qui s'appelle Day One, qui rend accessible l'engagement solidaire en entreprise, et très rapidement, pour vous parler de mon parcours et introduire le contexte. J'ai pas toujours travaillé dans l'engagement sociétal. Historiquement, j'étais dans la finance, donc rien à voir. Et très vite, je me suis posé la question du sens au travail, question à laquelle j'ai pas forcément réussi à répondre en interne. Et j'ai fini par tout quitter pour partir au Népal, faire de la réinsertion sociale d'enfants des rues à Katmandou. Rien à voir. Et c'était en 2015, c'est une année où il y a eu un séisme assez fort, donc finalement, j'ai été rapatriée. Et là, je me suis dit, c'est un petit peu dommage quand l'association m'a dit « Mais Élise, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie ?» J'ai répondu, j'ai le BAFA. Elle m'a dit que j'avais un master 2 en finance, que je gérais Excel. Et donc, je les ai rappelés en leur disant, si vous voulez, je peux vous accompagner dans la levée de fonds. Et ensemble, on a levé des dizaines de milliers d'euros. Et derrière, à la fois, moi, je me suis sentie extrêmement utile. En plus, j'ai senti que ça avait eu un impact fort. Ça m'a donné envie de retravailler dans la finance, que j'ai fait derrière pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, j'ai accompagné des entreprises, des dirigeants. Et je me suis rendu compte que la quête de sens que moi, j'avais vécue, elle n'était pas que chez moi. Aujourd'hui, c'est 2/3 des cadres qui sont prêts à changer de travail par manque de sens. Et on est face à une crise du désengagement au travail qui coûte cher, parce qu'en moyenne, en entreprise, ça coûte 14 000 euros par salarié par an. Et ça, c'est la moyenne française. 14 000 euros par salarié par an. Et nous, ce qu'on voit, c'est que 62% de cette part-là, on peut la réduire grâce à une démarche sociétale forte, et notamment au travers des actions RH et RSE qu'on va voir aujourd'hui. Du coup, ce qu'on va voir tous ensemble, ça va être les enjeux RH et RSE, les dispositifs pour passer à l'action, les études de cas de Malte et du groupe Partner, et des tips et plans d'action pour vous passer à l'action dans vos entreprises demain. Ça va tout le monde ? Top. Pour connaître un petit peu vos enjeux aujourd'hui, nous, on a 4 gros enjeux qu'on rencontre avec nos entreprises qu'on accompagne. Le premier pilier à gauche, c'est principalement des enjeux RH. Donc, on voit, il y a tout ce qui est attirer les talents, engagé dans la durée. On voit tout... Et après, on a à droite toute la partie RSE, qui est plus passée à l'action sociétale, et comment je pérennise mon entreprise, comment j'assure la pérennité de mon entreprise. Comme ça, en levant la main, qui aujourd'hui est plus, voit plus l'enjeu attirer les talents au quotidien? Ok, assez peu. Qui aujourd'hui voit l'enjeu engager dans la durée les collaborateurs? Ok, plus nombreux. Qui voit l'enjeu passer à l'action sociétale? Ok, à peu près pareil. Et assurer la pérennité de l'entreprise? Également aussi, ouais, effectivement, c'est assez lié. Super. Alors là, il y a eu le plus, c'était engagé dans la durée. Donc la stat, je vous l'ai déjà donnée, donc je vais vous donner une autre question. À votre avis, aujourd'hui, dans passer à l'action sociétale, qui était aussi un enjeu fort pour vous, aujourd'hui, combien de collaborateurs estiment que les enjeux de leur entreprise sont concrets et profonds, en pourcentage, si on prend tous les Français? Combien vont dire les enjeux de mon entreprise sont concrets et profonds? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer à dire un pourcentage? 20, 15, 10, 20, 35, 25. Eh bien, c'est très proche parce que c'est 23%. 23% des collaborateurs estiment que les enjeux de leur entreprise sont concrets et profonds, alors que 77% trouvent que c'est essentiel. Et si vous regardez la stat de gauche, c'est carrément 55% des actifs qui vont privilégier une entreprise qui met en avant l'engagement sociétal plutôt que le salaire. Donc on est vraiment sur des sujets d'actualité qui vont toucher à la fois le monde des RH et le monde de la RSE. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment adresser ces sujets-là. Et c'est un sujet qui va s'accélérer de plus en plus parce qu'aujourd'hui, moi c'est une stat qui m'a mise en mouvement, c'est que 9 sur 10 des jeunes diplômés cherchent un travail qui sert l'intérêt général. Donc cette tendance, elle va s'accélérer et elle va se confirmer sur les prochaines années. En termes de dispositifs, comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action? Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ces enjeux-là? Nous, on a un dispositif qu'on a identifié qui s'appelle le mécénat, et notamment le mécénat de compétences. Pareil, par levée de main, qui aujourd'hui connaît le mécénat de compétences sur le bout des doigts? Qui connaît de loin le mécénat et sera content qu'on en reparle aujourd'hui? Super. Et qui ne connaît pas du tout le mécénat de compétences et c'est la première fois qu'il en entend parler? Ok. Alors le mécénat, c'est le fait pour une entreprise de faire un don à une association. Il peut se faire sous trois formes différentes. Un, en financier, c'est-à-dire je donne 1000 euros à une association. Le deux, c'est en nature, je vais donner des ordinateurs parce que je change mes bureaux ou donner du mobilier. Et le troisième, c'est une entreprise, elle peut prêter un salarié sur son temps de travail à une association. Ces trois dispositifs-là, ils sont soumis à un avantage fiscal en France et ça permet de récupérer 60% du don en avantage fiscal. Alors comment on fait dans le cas d'une compétence ? Eh bien, l'entreprise récupère 60% du salaire brut chargé du collaborateur en avantage fiscal. Donc à la fois, ça va être un intérêt RH parce que le collaborateur, il va vivre une nouvelle expérience, il va s'engager, il va se fidéliser, il va mieux comprendre vos valeurs. On va avoir un intérêt RSE parce qu'on va cumuler des indicateurs forts en termes de RSE et il y aura un avantage financier également. Comment est-ce qu'on peut faire pour passer en association quand on est en entreprise ? Parce qu'en entreprise, on travaille et on n'est pas forcément amené à agir en association. Le premier, vous pouvez partager votre temps. Là, on va retrouver des actions d'équipe qui peuvent être de l'ordre de distribuer des repas chauds, aller faire du mentorat, aller faire des clean walks. Le deuxième, ça va être du partage de compétences. Peut-être que vous êtes expert RH, vous pourriez aller aider une association à mettre en place les tickets restaurants. Peut-être que vous êtes expert en com, vous pourriez aller refaire un logo. Peut-être que vous êtes expert en bricolage, vous pourriez aider une association à monter une nouvelle cuisine. Voilà, ça c'est du partage de compétences. On va avoir des entreprises qui vont partager des collaborateurs en intermission. Donc là, on est notamment sur des entreprises de conseil et de services numériques qui prêtent des salariés à la mission. Et entre deux missions, ils font rien, ils attendent. Et bien nous, on les place en association. C'est comme ça que cette année, on a refait 120 sites internet d'associations parce qu'on va vraiment partager leurs compétences métiers. Et le dernier, c'est sur les fins de carrière. Les fins de carrière, on a beaucoup parlé de la retraite cette année. On sait qu'on va avoir 2 ans de plus à travailler. On sait que le risque en fin de carrière de burn-out, de mise au placard, il est énorme. Et ben, l'entreprise peut décider de prêter son salarié, temps plein ou temps partiel, jusqu'à 2 ans avant la fin de carrière. Et l'avantage encore là, il est fort, notamment sur les intermissions et les pré-retraites, parce que l'entreprise, elle récupère 60% du salaire brut chargé du collaborateur. Donc le don, il n'est que de 40% en termes de temps. Mais la grande question qu'on peut se poser, c'est pourquoi toutes les entreprises ne sont pas encore passées à l'action? Parce qu'on se dit que c'est un super dispositif. Le premier, c'est qu'il y a peu de temps. Vous avez en face de vous des opérationnels qui sont surchargés, qui ont plein de travail, qui ont plein de belles missions et qui n'ont pas forcément des équipes dédiées pour s'en occuper. Sachant que le mécénat de compétences, comme c'est un prêt de main-d'œuvre sur temps de travail, il y a des documents du juridique à remplir, des avenants au contrat de travail. Et donc on peut se dire, oulala, j'ai pas le temps du tout. La deuxième raison, c'est la complexité du sociétal. Nous, on a des entreprises qui nous disent, on a appelé 4 associations, ils nous ont dit, on n'a pas besoin de vous. C'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe si on en appelle 400? Vous allez forcément en trouver une qui a besoin de vous, mais pour ça, il faut faire appel à des gens qui connaissent le monde de l'associatif. Et le dernier, c'est le manque d'outils. Comment est-ce que j'anime ma communauté? Comment est-ce que je suis les collaborateurs qui partent en mission? Comment est-ce que je m'assure qu'ils partent en mission et qu'ils ne vont pas faire du shopping? C'était une question que nous a posée une de nos entreprises. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on a créé une autre Day One qui va vraiment donner vie à vos engagements. et qui permet aux entreprises d'aller sensibiliser leurs collaborateurs avec des actions RSE et QVT, qui sont des petites actions courtes de quelques minutes et qui peuvent se faire à distance. Notre cœur de métier, c'est sur le paxer à l'action sociétale. Donc, on a vu pas mal de mains se lever sur comment est-ce que j'engage mes collaborateurs en allant aider des associations. Et le dernier, c'est vraiment sur booster sa stratégie RSE. Et là, c'est l'ADN de financière qui ressort. On va aller mesurer l'impact auprès de votre COMEX pour pouvoir montrer à quel point vos collaborateurs s'engagent. On a beaucoup d'entreprises qui nous disent « la RSE, on nous le demande dans tous nos appels d'offres ». Là, c'est des indicateurs que vous pouvez réutiliser dans vos appels d'offres. Pareil, on a de plus en plus d'entreprises qui ont des taux d'intérêt bancaires qui dépendent de leur valeur d'engagement. Et donc, aujourd'hui, il faut aussi engager ses collaborateurs si on veut des taux bas. Pareil pour avoir des investissements, etc. Et les collaborateurs sont demandeurs de voir à quel point vous engagez votre propre entreprise. Donc, comme ça, on se dit « Ok, mais je n'ai pas encore très bien compris comment est-ce qu'on peut le faire concrètement. » J'aimerais bien avoir des exemples. Ils sont là pour vous. Les études de cas.
Merci beaucoup.
Et du coup, on va peut-être laisser Malte commencer en termes d'études de cas. Céline, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Malte et quels étaient un peu les grands enjeux et pourquoi vous en êtes venu à vous poser cette question-là?
Tout à fait. Du coup, Malte, ben, rapidement, je vous ai dit communauté de freelance. Pour vous donner quelques indicateurs, on vient d'en parler avec Élise, pour que vous ayez plus une idée de l'écosystème dans lequel on intervient. Donc, on a 550 000 freelance sur la plateforme qui collaborent du coup avec 70 000 entreprises. On travaille, donc notre siège est en France, mais on est sur 9 bureaux à l'international, principalement en Europe. Et on a 6 bureaux en région française également. Et quoi d'autre? Et on a 700 collaborateurs, du coup, qui contribuent au Future of Work et qui, du coup, sont des employés. Donc, je vais vous parler de certaines initiatives liées, du coup, aux collaborateurs, mais également à notre plateforme et à, si je puis dire, la communauté de freelance. Pour répondre à ta deuxième question, notre politique RSE, donc du coup, comment elle s'articule chez Malte? En fait, c'est autour de notre culture et des piliers culture de Malte qu'on a identifié, enfin des valeurs, pardon, de la culture de Malte qu'on a identifié nos deux piliers. Donc, ça constitue en fait, la culture de Malte, elle constitue le cadre de toute l'entreprise, que ce soit quand on embauche des collaborateurs ou quand on apprend des échecs ou même dans nos succès. Voilà, au quotidien, en tout cas, on essaye de se baser sur ces valeurs-là. Quatre valeurs. It takes a community, donc c'est vraiment cette notion de on va pouvoir s'entraider et c'est la notion de collectif, donc d'être ensemble. La seconde valeur, c'est ambition is the way, donc nous on va essayer de pousser à l'initiative, et donc je vous parlais d'échecs rapidement, c'est rebondir, voilà, apprendre de nos échecs, mais plutôt valoriser l'autonomie des collaborateurs. La troisième valeur clé pour nous, c'est « on your choices ». Effectivement, je viens de vous expliquer en fait le « on your choices ». Donc, « ambition is the way », c'est vraiment réfléchir au next step. Donc, du coup, d'embarquer le plus loin possible. Mais « on your choices », c'est tu apprends tes erreurs, tu rebondis. Et du coup, tu es à l'aise avec le fait que on va se lancer sur des projets qui sont on voit pas tout de suite l'impact, mais qu'on va plutôt le test and learn, donc on va se lancer sur certaines initiatives. Et joy is our secret sauce, donc le pilier, une quatrième valeur hyper importante pour nous, puisque on part du principe qu'en fait deux critères clés du succès, c'est l'optimisme et le dynamisme. Donc voilà, à travers ces quatre valeurs, on a réfléchi à nos deux piliers. Deux piliers, un plutôt côté communauté de freelance, donc comme une force positive, donc pour qu'on promeut la durabilité, la diversité et les bonnes actions, donc pro bono ou autre. Et le deuxième pilier, c'est la meilleure version de nous-mêmes, donc c'est-à-dire améliorer, donc là c'est plus lié à l'interne de l'entreprise, donc améliorer les impacts sociétaux, et environnementaux.
Super, merci beaucoup. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'on a pas mal d'entreprises qui mettent en place des piliers d'engagement, des chartes éthiques. Comment vous, concrètement, vous avez réussi à concrétiser ces valeurs-là, ces piliers d'engagement, et comment ça se diffuse en interne?
Bah, du coup, on en a parlé aussi avec Lida pour préparer cette intervention. Et je pense qu'on a, plutôt les mêmes réflexes. Et tant mieux, on essaie d'interroger du coup, les collaborateurs dans un premier temps. Donc notre enquête interne, en fait, a mis en couleur quatre focus, donc des malteurs, de nos collaborateurs qu'on appelle les malteurs. Quatre gros focus. Eux, c'est les sujets qui sont plébiscités. Donc ce qui était intéressant, c'est que les initiatives tournent sur l'égalité homme-femme, c'est un des focus clés. La deuxième, c'est la diversité et l'inclusion. La consommation d'énergie, les conditions de travail, et conditions de travail, c'était vraiment, la question était tournée sur la satisfaction et l'engagement. C'était vraiment les inputs qu'on a eus. Et donc du coup, à partir de ça et des piliers, on a mis en place les initiatives que vous allez... voilà, celle-ci, c'est celle de 2023. Donc, à travers nos deux piliers, hein, on a parlé la communauté, puis en interne, la meilleure version de nous-mêmes. Du coup, à travers la communauté, on va essayer de promouvoir les expertises RSE par rapport à... Donc, pour nos clients. Donc, ça veut dire mettre en avant cette verticale spécifique. Ça veut dire organiser un panel groupe de freelance. On a un certain nombre de profils et de compétences qu'on peut booster et pousser pour solliciter nos clients et dire, voilà, est-ce que vous avez pensé à telle ou telle compétence ? Donc, ça, c'est la première initiative. La seconde, on a mis en place un partenariat avec l'inclusion. L'inclusion, c'est une plateforme de TIH, donc de travailleurs indépendants handicapés. Et du coup, il est double intérêt. Hein. Le premier, c'est d'apporter des missions à des indépendants qui sont en situation de handicap. Donc, on pense pas forcément, on n'a pas l'automatisme, il y a un panel de missions auxquelles nos clients ne pensent pas, mais qu'on pousse pour qu'ils fassent appel à des TIH. Donc ça peut être vraiment organiser un événement, ça peut être traduire des bouclettes, ça peut être un consultant RH. Vous avez un panel de missions possibles. Et dans un second temps, l'inclusion, c'est aussi intéressant parce qu'en termes d'entreprise, vous pouvez, on en parlait aussi en introduction, mais vous pouvez avoir pour votre contribution employeur, c'est un vrai impact. Vous pouvez booster votre RSE et du coup, il est double. Il est interne et financier pour les investisseurs. Et la troisième initiative dans ce pilier-là, c'est la sensibilisation des freelances aux enjeux environnementaux. Donc, on organise via notre plateforme des workshops et des webinars toutes les semaines donc sur différentes thématiques qui sont accessibles et gratuites hein, pour tous. Effectivement, on met l'accent sur ces enjeux-là. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, la formation, le bilan carbone volontaire. Donc, voilà les trois initiatives côté freelance. Et côté collaborateur, donc tu as parlé de charte environnement, climat et éthique. Je crois que c'est également la même chose chez côté Lida. Les achats responsables. Donc là, on va en 2023 et on a commencé. Je vous en parle dans le dernier point, dans le cadre d'un déménagement, à vraiment se focus sur les fournisseurs qu'on sélectionne, les fournisseurs responsables. Et on met en place dans un mois, on le déploie à la prochaine communication globale de groupe, enfin prochaine instance, on va dire de groupe, prochain HoloLens. On déploie notre code de conduite des collaborateurs qui sera signé par l'ensemble des employés. Et quand vous rejoindrez l'entreprise, ça fera partie des initiatives les premiers jours dans l'onboarding. Ensuite, Day One, et je vais vous en parler plus en profondeur dans quelques instants, mais ça, c'est la seconde grosse initiative de 2023 pour nous, pour répondre aux besoins d'engagement des collaborateurs. Donc ce sens dont je vous parlais, ce sens au travail, ce besoin de c'est incroyable ce chiffre. Là, je regardais ce que tu disais, 9 sur 10 des jeunes diplômés qui ont besoin d'un sens, et c'est extrêmement prometteur. Et du coup, ça explique d'autant plus pourquoi on a souhaité se lancer via cette initiative. Et il y a aussi d'autres initiatives locales par pays, puisque je vais vous expliquer aussi les difficultés qu'on a rencontrées et les freins où on s'est dit, est-ce que Day One, c'est le bon partenaire ? Et effectivement, on en reparle dans une seconde, mais la sensibilisation à la fraise du climat, et pourquoi j'insiste là-dessus aussi, parce que celui-ci, il est hyper impactant et très facile de mise en place également. Donc n'hésitez pas, vous prenez, enfin nous en tout cas, on a pris un freelance une journée qui nous a formés, un fresqueur, une fresqueuse, et ensuite on a internationalisé. Et en fait, du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir un background scientifique. Vous avez 10 malteurs donc, qui ont levé la main, qui ont été formés à l'interne avec ceux qui avaient suivi la journée avec le freelance. On a un matériel qu'on met à disposition. Il faut juste être de bonne volonté, avoir l'intérêt sur le sujet, quoi. Donc, la fraise du climat, il y a aussi des résultats rapides. C'est-à-dire que on a lancé en septembre 2022, l'année dernière. Là, ça fait pile un an, on a formé 200. Et l'objectif, c'est de former la totalité de la boîte d'ici janvier. Donc, 500 autres personnes. Mais on est en bonne, on s'organise pas mal. Donc, je pense qu'on le tiendra. Et la task force RSE, juste un petit point, puisque je pense qu'on a tous, en tant qu'entreprise, on a un vrai devoir là-dessus. On déménage. On déménage nos locaux. On reste à Paris, notre siège. Mais on a organisé du coup une équipe de travail pour se poser les questions en amont, tout au début du projet, qui travaille avec nous pour nous challenger sur les conditions de travail, sur l'impact environnemental, s'assurer qu'on n'oublie pas tous les... Enfin, voilà, qu'on se focus sur les bons enjeux et qu'on va prendre les bons choix de fournisseurs et autres. Donc, voilà, on fait ce vrai travail pour les nouveaux locaux qui seront, j'espère, une vraie illustration de notre politique RSE. Et je vais revenir sur Day One particulièrement. C'est aussi pour ça qu'on est là.
Pourquoi ?
Pourquoi Day One ? C'est un très bon point. L'année dernière, donc en septembre, octobre, je commence à étudier... différents acteurs. Je rencontre Daphné ici présente. Et en fait, les difficultés qu'on rencontrait, c'est manque de temps, t'en parlais. On n'a pas de quelqu'un responsable de RSE chez Malte. Ça paraît peut-être dingue, mais c'est un comité. Donc c'est pas la même chose que la fraise du climat. C'est dans tous nos bureaux, ils sont 15 et ils lèvent la main en plus de leur charge de travail habituelle. Ils se chargent de donner le cap. Avec évidemment d'autres collaborateurs, le leadership, les RH, etc. Mais ils portent cette charge de travail. Donc il faut aussi avoir en tête qu'on voulait quelque chose, un gain de temps aussi. Donc un acteur qui nous permettait de ne pas passer trop de temps dans l'implémentation. On voulait avoir une approche... c'est vrai que le contact, ça a beaucoup compté. Je dois dire que le fait d'avoir un project manager qui est hyper réactif, qui va pousser du contenu. Donc moi, j'ai une newsletter tous les mois sur les causes qu'on identifie, qui sont importantes pour l'entreprise. On va pousser chaque mois, par exemple. On a évidemment le mois de la femme en mars. On va pousser des initiatives. Et moi, en fait, je reçois ma newsletter, que je revois, bien sûr, mais que je vais relayer auprès des collaborateurs. Donc le temps de travail est vraiment moindre. En revanche, l'impact est hyper important, puisqu'ils vont savoir, Day One, ils ont le savoir de quelles associations ont besoin de vous ou a besoin de gens. Donc moi, j'ai clairement pas le temps d'appeler les différentes associations pour savoir où faire introduire les collaborateurs, pardon. Et l'autre inconvénient, pour le coup, qui était au début un frein pour moi, je me suis dit, c'est le côté international, parce qu'on voulait avoir un impact et proposer cette initiative pour tous les bureaux. Et Day One, à l'heure actuelle, n'était pas dans tous nos pays. Après, pourquoi j'ai choisi quand même, on a choisi pardon, quand même Day One ? Parce que c'est le marché plus mature, la France. Donc en fait, c'était un super test. Sur 700 collaborateurs, on en a 500 en France. Et du coup, ça n'empêchait pas un engagement solidaire dans les autres pays. Parce que c'est juste qu'on ne le faisait pas forcément via Day One. Hein. Mais du coup, on pouvait donner une journée de travail, parce que nous, on donne une journée de travail sur l'été, pour s'assurer que ça coïncide avec les enjeux business aussi. Donc sur 3 mois de l'été, les collaborateurs... peuvent prendre une journée. Moi, par exemple, je suis allée dans l'association Paris en compagnie, donc pour aider les personnes qui sont esselées, qui sont nos seniors, qui parlent à peu de personnes au quotidien. Et du coup, vous pouvez dédier le temps, et c'est Day One qui le sponsorise. Pas Day One, mais Malte qui le sponsorise. Donc, vous dédier une journée à une cause qui vous tient à cœur. Et ensuite, tous les collaborateurs peuvent aussi utiliser la plateforme pendant l'année, sur leur temps personnel. Donc c'est assez engageant, puisque par exemple, on peut aller donner son sang à l'heure du déjeuner avec des collègues, on va faire une maraude le vendredi soir à deux ou seul. C'est plein d'initiatives qui sont quand même disponibles, bien sûr, même si ce n'est pas pendant le temps de travail. Et la dernière chose qui m'a vraiment... je me suis dit, finalement, c'était un frein que j'ai réussi à tester. Alors, aussi, pardon, la plateforme est en anglais. Ils l'ont fait en un mois. Et du coup, tout était plus facile parce qu'on a des anglophones en France. Donc, en plus, ils n'avaient pas cette barrière de la langue. Donc, finalement, cette agilité m'a plu. Et c'est dans leur pipe quand même, d'ici quelques temps, de se lancer à l'international. Et l'autre, vraiment, last, peut-être ce qui m'a décidé, c'est vraiment côté KPI, les rapports. Alors, est-ce que c'est le passé ? Vous avez entendu comme moi l'histoire d'Élise qui est hyper intéressante. Est-ce que c'est son passé de financière ? Mais on a un rapport d'impact, on a accès. Si je vous montre mon accès Day One sur la plateforme, c'est on a un accès en temps réel à toute la data. Donc hyper facile pour moi de remonter au COMEX les données, d'expliquer pourquoi c'est un bon investissement. On va en reparler dans une seconde. Donc je pense que ouais, la data aussi m'a beaucoup convaincue. Et pardon, j'ai oublié un dernier point par rapport à leurs concurrents en tout cas que j'ai pas retrouvé. Peut-être aujourd'hui ça existe, mais en septembre, en octobre il y avait pas. C'est clairement leur sélection. En fait, le fait que les associations soient auditées. C'était vraiment compliqué de me dire, ok, on vend un certain nombre d'associations, d'initiatives sur une plateforme, ok, super, mais là, je sais que c'est apolitique, arreligieux, qu'il y a un local pour accueillir les collaborateurs, que peut-être, oui, enfin, on parle quand même de centaines, milliers d'initiatives, hein, probablement, donc il y a quand même un choix. Mais en tout cas, ils ont audité et ils ont qualifié les assos et les initiatives qui sont proposées. Et ça, vraiment, je trouve que la qualité, ça se ressent, quoi. Ça se ressent d'ailleurs dans les sondages, si tu veux passer et qu'on regarde un petit peu les indicateurs.
Merci Céline. Avant de passer aux indicateurs, j'avais juste une question pour toi, parce qu'on le voit beaucoup, on a beaucoup de RH ou de personnes en interne qui nous disent « moi j'ai envie de lancer une plateforme, mais parfois j'ai peur de comment l'animer et comment créer des temps forts ». Vous avez été un peu les rois des temps forts parce que vous avez mis en juin la possibilité d'avoir un jour supplémentaire pour engager toutes les équipes. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette initiative ?
Oui, tout à fait. En fait, du coup, notre choix de journée, elle était double. C'est vrai que c'était temps fort pour se dire que c'était l'agenda. En fait, en été, on a plus de temps dans notre secteur d'activité. Donc c'est vrai que sinon c'est toujours, moi j'entends toujours oui non mais Céline il y a l'appel d'offres, il y a le truc, je vais pas pouvoir aller même si j'ai très envie d'aider, mais et là je disais bah voilà, ça tombe bien, tu dis qu'en août il y a rien à faire au travail, il y a rien à faire au bureau, que t'es là, que tu t'ennuies, ben justement il y a plein de choses à faire, il y a des gens seuls qui partent pas en vacances, qui sont là et qui ont besoin juste d'échange, donc inscris-toi. Donc je pense que ce temps fort il a été bien perçu côté collaborateur. Et l'autre temps fort, je pense que c'était le lancement, je sais pas si nous on avait de la chance mais le lancement avec Élise qui explique en fait pourquoi elle a lancé cette boîte et le faire en duo. Ils sont venus dans nos locaux, on a vraiment lancé ça mi-janvier et c'était un super temps fort aussi. Quoi d'autre ? Tu pensais à ça, non ? Ou t'avais
d'autres
trucs
en tête ? Et aussi le fait de le faire par équipe.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Du coup, l'équipe aussi d'assurer. Alors, ça, d'ailleurs, il faut que je le monitore plus, mais effectivement, de se dire que, au lieu, c'est super hein, d'aller faire un bowling, et je suis la première à être ravie d'avoir des temps un peu fun à l'extérieur, qui va vous faire sortir du monde de l'entreprise traditionnelle, comme on l'entend. Mais c'est tellement plus fort, je trouve, justement, de le faire à 5-6. Et quand on peut, hein, en termes d'association, il faut aussi que la nature de la mission le permette. Mais de le faire à 5-6, c'est de se dire, OK, le team building de septembre, on ne va pas faire finalement cette soirée où il y a tellement de choses en ce moment, où tu casses un peu tout dans une salle. Enfin, moi, j'ai entendu plein d'options. On va plutôt aller donner du temps ensemble. Et ça, c'est vraiment... J'ai des super feedbacks dans la ferme, par exemple. Il y a une ferme, je ne sais pas si vous êtes au courant, en plein Paris, dans le 18e, que j'ai découverte grâce à Day One. Et en fait, on nourrit des animaux, on repeint des cages, on organise... Il y a des enfants, en fait, qui passent tout le mercredi après-midi, qui passent du temps là. Donc, on peut organiser aussi des activités pour les enfants. Et on a fait ça à plusieurs, et ça a été extrêmement apprécié, parce que déjà, on découvre que même dans Paris, en fait, il y a de quoi, pour ceux qui sont intéressés par les causes green, du coup, il y a quoi faire. Et aussi, en termes de team building, en fait, vous avez, à la fin de la journée, quand vous vous posez la question, on a l'impression que c'était du temps bien investi, quoi.
Merci. Très rapidement, parce que le temps tourne. Est-ce que tu peux nous dire Alors là, c'est quelques statistiques sur après quelques mois de lancement. Donc,
tout à fait. Bah, en fait, un tableau comme ça, ça ressemble un peu à ça. Et il y a deux slides et je finis en une phrase. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de vous pouvez non seulement voir combien de collaborateurs sont engagés en temps réel, quels sont le nombre d'associations aussi sélectionnées, lesquelles, les causes. Donc, par exemple, moi, je sais que handicap, santé, bien-être, c'est 26% des collaborateurs vont plutôt s'engager vers cette cause-là. Donc, c'est intéressant pour recentrer, pour redonner déjà, nourrir notre équipe RSE et recentrer notre stratégie si besoin. Si on s'est un peu éloigné quoi, des actions des collaborateurs, parce que je pense que Ida et moi on est d'accord là-dessus, c'est il faut s'assurer qu'en fait peu importe l'action que vous mettez en place, il faut que ça résonne en interne et que ça soit vraiment ce qui compte pour ceux avec qui vous collaborez. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions plus tard, mais voilà, et ouais. Ça c'est peut-être un peu plus quali, c'est nos résultats suite à des sondages, parce que aussi ce que vous avez c'est pas vous qui êtes en train d'organiser les sondages, envoyer les enquêtes, etc. Vous le recevez par Day One, par votre project manager, et du coup, après chaque action, les collaborateurs sont invités à répondre et à cesser un petit peu leur expérience. Et du coup, c'est plutôt positif, comme vous voyez, jusqu'à maintenant.
80% développent leur bien-être et leur épanouissement au travail.
Voilà. Merci.
Peut-être très rapidement.
Ouais, en fait, je passe avant quelqu'un qui est Platinium. Donc, EcoVadis, Platinium, c'est extrêmement intéressant. Bravo à vous. Nous, on est Gold. On est quand même contents. C'est quoi c'est... Ça nous permet en fait, de monétiser, en fait, de calculer votre impact, justement, RSE. C'est un des indicateurs. Et on est quand même au 96e percentile. Donc, ça veut dire qu'on fait, par rapport à nos pairs, qu'on est quand même relativement bien placé, on est content, c'est à travers quatre thématiques que vous voyez. Et voilà, notre objectif, en revanche, c'est de passer Platinium en 2025. Voilà.
Et du coup, merci beaucoup Céline. On va passer tout de suite du coup au groupe partenaire qui, lui, est Platinium et qui va pouvoir vous en dire un petit peu plus.
On pourra en discuter, Céline.
Peut-être Lida, tu peux nous présenter un peu le groupe partenaire et tes enjeux.
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le groupe partenaire est spécialisé dans tout ce qui est ingénierie des ressources humaines, donc aussi bien recrutement intérim avec notre marque partenaire, mais aussi tout ce qui est CDI. On a des cabinets de recrutement, Talent Skills pour tout ce qui est middle management, et Antenor qui est notre cabinet de chasse de tête spécialisé dans tout ce qui est santé et life science, mais aussi les autres solutions, le portage salarial voilà, tout ce qui est externalisation des ressources humaines. Donc en fait, on est une société française qui date de 1952. On a eu le plaisir de fêter nos 70 ans l'année dernière. Et c'est une entreprise familiale. On est aujourd'hui notre PDG qui a racheté l'entreprise en 1987 et aujourd'hui en train de passer la main à sa fille. Et ce côté familial, on tient à le garder, même si on a une très belle croissance, puisqu'on est parti d'une agence à Orléans, et aujourd'hui, on est plus de 500 salariés répartis sur toute la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Donc c'est une très belle réussite à la française, mais par contre, avec une forte volonté d'innovation et d'agilité qui fait notre réussite, puisqu'on est à peu près aujourd'hui classé dans les 10e français. On ne sera jamais un major, c'est parce que ça ne nous intéresse pas. On a une croissance raisonnée, toujours par croissance interne et externe, mais par contre, on a des valeurs très fortes qui sont poussées aussi par la famille et puis par l'ensemble de la direction. Et c'est des sujets qu'on a discuté tout à l'heure avec Céline qui sont importantes, notamment quand on parle d'engagement et de RSE. Ça ne fonctionne que si c'est porté aussi par la direction. Donc voilà, vous avez les chiffres devant les yeux, je ne vais pas les commenter. Quatre piliers d'engagement. De par la personnalité aussi de notre PDG, on a toujours été engagé dans beaucoup d'actions sur le handicap, sur la diversité, sur tout un tas d'actions. Mais petit à petit, au fur et à mesure de la croissance du groupe, forcément, on l'a organisé, on l'a valorisé. Et c'est vrai que la mise en place d'une responsable RSE, il y a quelques années, nous a permis de mettre des choses plus factuelles en place. Donc déjà, ça nous a permis de définir des piliers d'engagement. Alors vous le voyez, nous, forcément, nos piliers sont plutôt liés à l'humain. C'est l'activité de notre groupe. C'est pas pour ça qu'on oublie, vous le verrez, le côté environnemental et autre. Mais... par contre, c'est quand même plus autour de tout ce qui va être insertion sociale, diversité, inclusion, santé aussi, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, éducation, il n'y a pas d'emploi sans éducation, et de la partie handicap, qui est un sujet qui tient à cœur du groupe. Donc nos valeurs, on les a déterminées il y a un peu moins de 10 ans maintenant, et elles n'ont pas bougé, elles sont vraiment très forte et ancrée pour l'ensemble des collaborateurs, c'est la proximité. On l'a dit, on a un groupe familial, on est très proche de nos partenaires, nos clients, nos candidats. C'est ce qui fait notre différence, en fait, aussi par rapport à peut-être certains majors. Aujourd'hui, très clairement, on fait la différence. On a beaucoup de collaborateurs qui quittent les grands groupes pour venir chez nous, pour rechercher un peu d'humain, sans les stigmatiser, parce que ce sont des très belles enseignes. Mais quand vous passez pour un manager plus de la moitié de votre temps à faire du reporting et remplir des tableaux, là, en quête de sens, c'est un peu compliqué. Et en effet, on a pas mal de gens qui viennent chez nous. Réactivité. Alors, l'intérim, c'est simple. Quand on vous appelle, c'est pour hier. Donc, ça transpire un peu dans toute l'entreprise, y compris les fonctions support. Voilà, il faut être agile. Par contre, c'est une force aussi par rapport à nos clients et on a des circuits de décision très courts, il y a peu de strates hiérarchiques. On a des gens qui sont formés, on investit beaucoup sur la formation parce que pour être actif, il faut être expert, il faut être spécialiste, il faut être capable de répondre vite à l'ensemble des problématiques de nos clients. Responsabilité, alors on pense tout de suite RSE, mais pour nous, la responsabilité en premier, c'est la santé et la sécurité de nos collaborateurs. On fait travailler, vous l'avez vu, 58 500 collaborateurs, c'est à peu près 12 000 collaborateurs par jour qui vont travailler dans d'autres entreprises, dans vos entreprises. Et là, comment est-ce qu'on garantit leur santé? C'est extrêmement compliqué, donc on en a fait un enjeu fort. Et on verra après qu'on a mis un certain nombre de choses en place. Et après, la responsabilité, c'est bien sûr, pour faire ça, c'est aussi, ça veut dire qu'on a des enjeux. On a des enjeux de RSE. La santé, c'est aussi, ça passe par le respect de l'environnement, le bien manger. Il y a tout un tas de challenges après, de choses qu'on met en place en termes de diversité, etc., autour de la RSE. Et puis l'excellence opérationnelle. Pour faire tout ça, il faut être bon, je disais tout à l'heure, il faut être expert dans son métier. Ça veut dire investir sur la formation, sur l'accompagnement. Ça veut dire être à l'écoute aussi de nos collaborateurs. Et ça, ça passe par différents enjeux, dont aussi des actions d'engagement.
Merci, Lida. Peut-être du coup sur les axes clés du coup, et les solutions que vous avez mis en place en 3 minutes.
Alors, en 3 minutes sur la slide suivante, il y en aura beaucoup à dire. Simplement sur le côté santé-sécurité, on a plein de certifications, je suis désolée, on est très bon. Pourquoi ? Parce qu'on est hyper challengé par nos clients. Quand vous répondez à un appel d'offre de Bouygues, vous avez 3 pages de certification et si vous n'avez pas, d'où l'enjeu business dont on parlait tout à l'heure aussi. Donc, mais nous, on voulait aller plus loin et la certification ISO 45001, qui n'est pas très connue, elle prend en compte en fait toutes les actions qui sont mises en œuvre sur la santé et le bien-être des collaborateurs. On est les seuls dans la profession à l'avoir et on en est très fiers et c'est un très très gros challenge. Sur la partie diversité, égalité des chances, ça, étant donné notre métier, c'est indispensable. Maintenant, on a vu, il y a des enquêtes des droits de l'homme qui ont pointé du doigt dans notre profession parfois des difficultés. Ça veut dire que c'est un sujet qu'il faut traiter tout le temps, tout le temps. On forme les nouveaux, on les reforme. C'est obligatoire, mais on va plus loin parce que l'objectif et notre leitmotiv, c'est que tout le monde ait sa place dans l'entreprise et donc que tout le monde ait sa place dans l'emploi. L'environnement, ce n'est pas notre pilier. Malgré tout, on a un impact fort, comme tout le monde. D'abord, on a des agences un petit peu partout. On a, en 2022, fait notre premier bilan carbone. C'est déjà une première étape. Et finalement, ce qui ressort, c'est que notre principale source, notre principal impact, finalement, c'est la mobilité de nos collaborateurs. Et là, on a un vrai challenge. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein d'agences conseils sur le bilan carbone. Maintenant, quand on les challenge en disant « Ok, nos permanents, étudiez leur trajet, domicile, travail, c'est bon. Mais nos intérimaires qui changent de boulot tous les 2 jours, etc., etc. Comment ?» Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Mais c'est notre axe de progrès. Et puis la partie qui nous intéresse aujourd'hui, l'engagement de nos collaborateurs. On en a parlé tout à l'heure. Comment les attirer, comment les garder. J'ai un consultant qui me dit l'évolution de la société, je vais te l'expliquer en 2 mots. Avant, on faisait un entretien et puis on disait au candidat, on vous rappelle. Maintenant, à la fin de l'entretien, le candidat nous dit je suis intéressé, je vous rappelle. Voilà. Donc forcément, le rapport est complètement inversé et ça veut dire qu'il faut qu'on ait des arguments pour qu'ils aient envie de venir travailler chez nous et chez nos clients par la même occasion. Et puis, on a déjà beaucoup d'actions, je vous l'ai dit. Donc on a une fondation d'entreprise, partenaire, qui existe maintenant depuis 2 ans, qui fait suite à un fonds de dotation. Nous, on fait les choses maîtrisées. Petit à petit, on s'essaye et puis on avance. Donc maintenant, on a une fondation. Donc on fait déjà beaucoup de dons financiers. On a des actions fortes qui peuvent être aussi bien humaines que aussi au niveau de l'environnement. Là, on a on a beaucoup de choses autour du handicap parce que c'est quelque chose sur lequel on va depuis longtemps. Alors on est assez fiers parce qu'on va supporter 6 athlètes paralympiques en vue des JO. On en a déjà 2 qui sont qualifiés. C'est des super personnes. Et puis de remettre un pied par contre dans ce milieu-là, je peux vous assurer qu'il y a énormément d'athlètes qui vraiment ne mangent pas beaucoup à la fin du mois. Et ils ont besoin des entreprises. Et puis notre engagement handicap fait vraiment sens aussi par rapport à nos collaborateurs. Ils sont très très fiers de ça. On fait du mécénat en nature aussi parce que par exemple, pour recycler tout nos matériels informatiques, on a identifié des associations à qui on donne notre matériel et à qui ils vont donner une deuxième vie. Et puis, forcément, dans l'engagement, ça faisait un petit moment qu'on y pensait, le mécénat de compétences. Je détaillerai un petit peu plus loin, mais Day One est arrivé. La partie, alors c'est ce qui nous a fait gagner le Platinum EcoVadis, c'est la partie achat responsable. C'est une partie qui est très importante, difficile à challenger, mais aujourd'hui, on a voulu rentrer dans un cercle vertueux avec nos fournisseurs. Donc déjà, on signe des chartes avec tous nos fournisseurs de premier rang. Là, on est en train de mettre en place un cercle de fournisseurs, justement, pour pouvoir aussi créer de la discussion, créer de la valeur dans tout notre réseau de partenaires. Et c'est des choses sur lesquelles on continue à travailler. Et ensuite, lutter contre la corruption. Alors, on est adhérent au Global Compact, on en reviendra pour les KPI. Notre responsable RSE qui s'est beaucoup investi. Et forcément, quand on a une société avec beaucoup de commerciaux, c'est un sujet qui est très important. Et de toute façon, là aussi, on est extrêmement challengé par nos clients.
Merci Lida. 6 solutions pour 6 axes clés. C'était très concret. Peut-être très rapidement, parce qu'on s'était rencontrés il y a, je pense, 2 ans la première fois. Vous mettiez en place la fondation. Et un jour, j'ai eu Lida qui m'a appelée en me disant « C'est bon, on est prêt. » Qu'est-ce qui avait changé et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit « C'est maintenant, c'est le bon moment. » Quelles ont été les difficultés ? Peut-être en 2 minutes.
Il y a des difficultés qui sont communes, je ne vais pas revenir dessus. Le côté temps, c'est pareil, on a des équipes un peu partout. Quand vous êtes 2-3 dans une agence à Montélimar et qu'on vous dit, qu'on dit au manager, votre collaborateur et vous allez pouvoir partir 2 jours en plus des autres congés. Voilà, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Il fallait rassurer la direction. Donc c'est vrai que l'avantage d'Élie, c'est quand on la rencontre, au bout de 3 phrases, elle dit KPI. Et là, on se dit, je vais pouvoir la présenter au directeur général. Ça va bien se passer. Parce que c'est la première question qu'il va nous poser. Combien ça coûte ? Combien tu penses que ça va nous rapporter ? Parce que du coup, on va avoir moins de départs. Enfin, voilà, il est très, très bien câblé. Et il voit ça tout de suite. Donc, Élise a eu tout de suite les arguments. Et puis après, c'est comment vous nous accompagnez ? Parce qu'on se doute bien que c'est difficile. Alors, on a fait aussi des sondages. On a beaucoup de collaborateurs qui sont déjà très engagés. C'était un frein, une force et un frein. Parce qu'en même temps, ils nous disent, on n'a pas besoin de ça. Donc, nous, on le fait déjà, on le fait en dehors de notre travail. Voilà. Donc ça, on a encore de la pédagogie à faire là-dessus. Mais en même temps, c'était une vraie force de pouvoir se dire qu'on avait des gens qui avaient envie. Et dans beaucoup de secteurs, alors tout ce qui est santé, éducation est quand même assez prépondérant, mais malgré tout, beaucoup de demandes sur d'autres activités. Donc ça, c'était le point fort. Et puis, on s'est rencontrés parce qu'en fait, on est à Orléans, et maintenant qu'ils sont très parisiens, Day One, mais ils ont quand même, au départ, des bureaux à Orléans. On est partenaire d'un incubateur de start-up. Maintenant, c'est une très, très belle start-up, Day One. Mais c'était aussi travailler en proximité, parce que ça fait partie de nos valeurs d'aller chercher des partenaires en local. On les a challengés. On est allé voir les autres plateformes. Et on n'a pas trouvé l'accompagnement tel que Élise tout de suite nous l'a proposé. Il y a le côté humain, il y a toute l'équipe autour, et puis il y a surtout tout ce qu'ils nous ont dit pour nous accompagner. Ça s'est traduit avec des choses très très concrètes sur oui, mais comment on fait ? Parce que si vous êtes moins présent sur des régions, pas de souci. Les gens qui sont déjà engagés peuvent nous proposer des associations. Donc ça, c'est important aussi, et là, ils vont aller auditer pour savoir si ces associations, en effet, sont vertueuses et on va pouvoir travailler avec. Et puis il y avait tout le côté admin. On l'a dit tout à l'heure, ça rentre après, il y a une défiscalisation. Et là, il y a la DRH qui était comme ça, qui me dit « Ah, mais moi, je n'ai pas les ressources, Lida, pour faire ça. Tu te rends compte le nombre de conventions et tout ça ?» Voilà, donc il y a eu beaucoup de rencontres sur comment on le met en place, comment on fait le lien avec nos outils. Et ça, c'est hyper important, parce que s'il n'y avait pas ça, franchement, ce n'était pas possible. C'était un des freins. Donc il y a tout ça. Le côté international, on ne nous a pas trop challengé, nous, pour l'instant. On est en croissance raisonner. Donc, mais la Suisse, ça commence à être pas mal, hein, faudrait y penser. Et puis, ça répond forcément à tous nos objectifs. Comme je disais, on est adhérent du pacte mondial. On répond à 10 objectifs de développement durable. J'ai été leur piquer un pin, c'est-à-dire. Et dedans, il y a beaucoup d'enjeux. Élise nous a dit, mais nous, l'objectif, c'est que les missions puissent vous les quantifier. Vous donnez aussi des datas sur dans quels objectifs de développement durable rentrent les missions, etc. Donc voilà, tout ce côté KPI aussi est important pour nous. C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est très clair. Peut-être on ne va pas repartir sur toute la frise de déploiement. Si vous avez des questions, on restera à la fin pour Lida et Céline. Quelques résultats. Est-ce qu'il y a un chiffre qui vous a le plus marqué ?
Au départ, on a eu des réticences, qu'on pensait qu'on avait trop de gens qui allaient se précipiter pour faire du mécénat. Alors, on a eu des questions, pas sur le shopping, mais sur d'autres. T'es sûr, ils vont faire des choses. Alors, on a expliqué que c'était vertueux. Et puis, surtout, Élise nous a rassurés, nous a dit non, mais déjà, si vous atteignez 10%, c'est génial, on doit être à peu près à 3%. Donc, ça veut dire que ça prend. Tous les collaborateurs en parlent. Ils sont hyper fiers que leur entreprise ait choisi cette solution. Ça, c'est unanime. Après, pour passer le pas, ils vont sur la plateforme. On voit, on a quand même près de 700 collaborateurs qui sont inscrits sur la plateforme, donc ça fonctionne bien. On a mis des webinars en place pour le lancement, pour bien informer. Il faut faire beaucoup de pédagogie, en fait, pour expliquer auprès des managers, on en parlait tout à l'heure, pour qu'ils ne soient pas inquiets de comment ils vont gérer leur équipe. Auprès des managers, pour leur dire, mais toi aussi, montre l'exemple, je suis sûre que tu vas faire des choses. Et puis, expliquer comment je fais pour trouver mon association. Et là, il y a beaucoup d'accompagnement du côté de Day One, et ça, c'est vraiment ce qui fait le déclencheur. Et puis, on fait le lien, parce que comme on fait aussi du mécénat par ailleurs, on a des missions maintenant. On propose des associations qu'on mécène, parce qu'ils nous disent que c'est super. Alors, ils ont tous besoin de refaire leur site Internet. Ils ont besoin de beaucoup de mais plein d'autres choses. Et nos missions, on en parlait tout à l'heure, il y a plein de belles missions, très engagées, très différentes. Donc ça, c'est plutôt chouette, et c'est vraiment ce qui fait le succès. Mais il y a encore des choses à mettre en place.
Oui, comme on le disait souvent, quand on dit « je vais faire un don de jours à tous mes salariés », on s'attend à se dire « mais s'ils sont 1000 et que je donne 2 jours, je donne 2000 jours ». Il faut savoir que même si tous ont envie de le faire, tous ne sont pas prêts à le faire, en tout cas pas dès la première année. Et en moyenne, nous, sur toutes nos entreprises, donc ça va de 20 collaborateurs jusqu'à plus de 4000, on est sur du 20% après 2 ans d'engagement des collaborateurs. Donc ça, c'est une moyenne avec des grandes disparités. On a des entreprises qui vont en engager 40% et on a des entreprises qui vont moins communiquer. Donc là, en face de vous, vous avez des personnes qui ont beaucoup communiqué dessus, qui l'intègrent vraiment dans leurs valeurs, dans leur culture. Et ça, c'est vraiment la clé. D'aller aussi sur le offline, parfois de mettre des affiches, de faire des rencontres, des matinales et d'avoir des retours d'expérience. Ce qu'on voit, c'est qu'en général, quand il y a les premiers retours, des premiers témoignages qui disent « mais ça, c'était super », ils envoient des photos en interne, forcément, on se dit « ah, mais en fait, c'est accessible, ça a l'air bien, et moi aussi, j'ai envie de passer à l'action ».
Si je peux me permettre une petite anecdote là-dessus, c'est trop drôle. C'est tellement vrai, parce que le premier retour d'expérience qu'on a eu, c'était pour une association qui a eu tout d'un coup 25 collaborateurs qui l'ont contacté après que quelqu'un ait parlé et expliqué à quel point ils avaient passé une super journée et qui ont dit en fait on n'a pas besoin de 25 personnes, c'est très gentil, mais du coup à quel point effectivement c'est impactant qu'il y en a un qui parle de son expérience, les autres ont envie de faire la même chose.
Et puis voilà, ça fait partie des axes des next steps, c'est de continuer à engager les collaborateurs, continuer à animer ce programme. Alors on a fait des choses plutôt intéressantes comme on a fait un forum au siège, on a fait venir des associations. Donc ça, Day One nous a accompagnés justement pour organiser. Ça a été vraiment très intéressant parce que les collaborateurs qui n'osaient pas trop, là il y avait les associations qui étaient là, il y avait les Blues Roses, il y avait... ça a donné des idées, on a des associations, il y en a partout en France qui luttent contre l'illettrisme et l'électronisme. Et là, pareil, on a des gens qui sont positionnés sur des missions et franchement, ils n'y auraient jamais pensé s'ils n'avaient pas été à la rencontre de ces associations. Donc c'est plutôt bien. Et puis là, il va y avoir le Clean Up Day prochainement et on a une région, par exemple, qui fait toute une journée incentive avec des actions en mécénat de compétences sur le côté plutôt clean ta planète. Donc ça, c'est plutôt bien.
Merci. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a une question hyper importante? Non, aucune. C'est hyper clair. En tout cas, un grand merci pour nos intervenantes. On espère que ça vous a inspiré, que vous aurez envie de passer à l'action. Et on vous souhaite un très bon salon. Merci encore.